Et aujourd'hui, nous sommes à Saint-Claude, dans le Jura.
Aurélie Sfez, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au marché de Saint-Claude. Vendredi dernier, vous étiez à Ouistreham en Normandie avec Antoine Lee et aujourd'hui, on est presque en Suisse, dans la petite ville de Saint-Claude, dans les montagnes du Haut-Jura. Pour venir à Saint-Claude, il ne reste plus qu'un seul train qui termine son voyage dans une jolie gare fantôme perdue au fond d'une vallée. En me baladant hier, j'ai discuté avec Alain, l'entraîneur de l'équipe de basket. Étonné, il m'a dit « Comment ça vous êtes arrivé en train ? Quel train ? Il n'y en a plus ici. Ils ont tout supprimé. » Je lui ai répondu qu'on avait pris un train avec un nom d'oiseau. Là, il m'a dit « Ah ok, vous avez pris la ligne des hirondelles. Ils circulent une fois tous les 36. » Il le garde pour les touristes, celui-là, parce que c'est joli. C'est vrai, Alain, que c'est beau cette traversée dans les cimes. Cette vallée, c'est un royaume sauvage, presque intimidant. On se colle à la vitre et on se fait des films. On est dans un train russe qui chemine au milieu d'une forêt de Sibérie, avec des chalets suisses et quelques vaches qui poussent comme par magie. Au creux de cette vallée qui donne le vertige, il y a Saint-Claude. Saint-Claude, c'est une petite ville ouvrière, un château de cartes accroché aux montagnes et on se demande comment tout ça, ça tient. Il y a des maisons simples et des immeubles des années 50, des PMU à l'ancienne, des magasins de lingerie pour les petites mémées et des merceries qui sentent la naphtaline. Alain me dit que c'est un monde qui n'a pas trop bougé parce que c'est bien comme ça. Et puis, avec Alain, on se regarde et on se ravise. Enfin, en ce moment, c'est un peu la cata. La fonderie qui ferme, la maternité qui ferme, les trains fantômes. Il va falloir se serrer les coudes, déplacer les montagnes et toucher du bois, comme l'abbé Saint-Claude, qui s'est retiré dans les solitudes du Jura pour exercer ses miracles aux confins de la forêt. Et vous êtes avec moi, Roger Bergeret, bonjour.
Bonjour.
On est au milieu du marché de Saint-Claude, avec l'accordéoniste. C'est parfait.
Ça fait plaisir, parce que le marché, ça maintient la vie à Saint-Claude. Les gens sont contents de s'y rencontrer. Ça nous sort de nos soucis. La désindustrialisation, la crise, comme on dit. Mais on a aussi le paysage pour nous. Tout va repartir.
Tout va repartir. Hein.
Ouais.
Roger Bergeret, vous êtes ancien professeur d'histoire au lycée de Saint-Claude. Et vous allez tout nous raconter sur l'histoire industrielle et ouvrière de cette petite ville, qui est un exemple assez unique en France.
C'est unique parce que l'industrie est très ancienne. Elle a été apportée à Saint-Claude par le christianisme, puisque c'est la fondation d'un ermitage à Saint-Claude vers 430 après Jésus-Christ, qui a fait que la ville est devenue une ville de pèlerinage et donc d'industrie pieuse, on va dire, les chapelets, la statuaire. Bon, ces industries, on peut dire qu'elles sont déjà attestées dans l'Antiquité tardive et le Moyen-Âge. Donc Saint-Claude est resté toujours une ville, et le Haut-Jura, les hivers sont longs, et donc l'industrie est un complément d'activité, d'une ressource naturelle et indispensable. C'est pourquoi la crise actuelle est très difficile à vivre dans le Haut-Jura.
Quel genre de miracle faisait Saint-Claude ?
Alors, Saint-Claude ressuscitait les enfants morts au moment de l'accouchement, qui étaient voués à rester dans les limbes, et il leur redonnait vie. Et donc, quand il y avait un enfant mort-né, on l'apportait près du sarcophage de Saint-Claude, et il rosissait légèrement, on le baptisait rapidement, et il allait au ciel. C'est assez incroyable. Mais ces miracles ont continué jusqu'à la Renaissance.
Allez, Roger Bergeret, venez avec moi. On va continuer cette discussion avec Dom. C'est la patronne du bistrot. On va rentrer dans le café. Bonjour Dom, et merci de nous recevoir dans votre café.
Ça me fait plaisir aussi à moi. Hein.
Vous tenez ce bistrot, le café de la place en face du marché. On est arrivé avec Roger.
Oui, ça fait 10 ans que je suis là.
Comment vous la voyez, cette ville, de derrière le comptoir, Dom ?
C'est une ville qui est très bigarrée, qui a toutes les cultures, mais qui ne se mélange pas vraiment. Une ville qui est un petit peu coupée en deux. Le quartier un petit peu plus bourgeois et le quartier plus populaire.
Et vous, vous réunissez un peu les deux, non, ici, quand même ?
Oui, tout le monde depuis des années et des années.
Moi, ce que j'aime aussi dans votre bistrot, c'est que d'abord, je le trouve beau et je trouve qu'il est... je sais pas, c'est un bistrot à l'ancienne, quoi. Vous avez pas cédé. Voilà, vous avez pas cédé à la mode.
Non, c'est pas un bistrot Ikea.
Et blanc.
Et blanc, attrape-toi.
Voilà.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous lancer un disque ?
Ah, alors je vais vous lancer ce disque. C'est Gatien, ce que les Français veulent.
Et vous savez ce qu'ils veulent, les Français ? Dans cette chanson, ils veulent des câlins.
Des câlins, de l'amour et de la tendresse.
Et c'est le choix de Djoubaka. Roger, on s'est installé ici au bar de chez Dom. Derrière la vitre, on voit le marché. J'aime bien ce bar en fait, c'est ce que je disais à Dom, parce que je le trouve chaleureux.
Oui, il est bien, il est bien placé. Cette place quand même, je dois quand même rappeler que c'est la place du 9 avril.
Et le 9 avril, il y a eu une rafle ici.
Tous les hommes de 18 à 40 ans, je crois, ont été convoqués par les autorités d'occupation. Et un grand nombre, environ 350, ont été déportés. Et Saint-Claude a été un centre de résistance, si bien qu'on peut dire que Saint-Claude et le Jura sont peut-être le pays qui ont eu le plus de morts en déportation par rapport à la population totale.
C'est lié à quoi ? Pourquoi il y a eu tant de déportations ici ? Est-ce que c'est lié au fait que les Jurassiens forment des corporations, sont en solidarité ?
Il y avait déjà la fraternelle et la tradition coopérative qui était plutôt, disons, de gauche et qui très tôt n'a pas accepté à la fois le régime de Vichy et en même temps l'occupation. Donc la fraternelle a permis à ravitailler ces jeunes, à ravitailler ces réseaux, a servi de base et évidemment les autorités allemandes ont voulu, à un certain moment, vider le bocal, comme on dit, c'est-à-dire s'en prendre à toute la population, instaurer la terreur et voilà, faire partir en déportation tous les hommes valides.
Roger, la fraternelle, vous en parlez. C'était quoi la fraternelle ?
Alors, la fraternelle, c'est une coopérative d'alimentation qui a été fondée en 1881 par un cercle ouvrier. Cette coopérative d'alimentation se proposait d'améliorer l'alimentation ouvrière, notamment en se ravitaillant, par exemple, auprès des coopératives viticoles. Cette coopérative, surtout, elle a très vite été, je dirais, travaillée par l'idée socialiste. Donc, à un moment, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on faisait des profits. Finalement, c'est la solution qui a prévalu, c'est la solution qui consistait à verser tous les profits à une caisse sociale qui servait à alimenter des caisses de solidarité.
De solidarité.
Mais aussi à créer un fonds social qui permettait d'aider à la création des coopératives de production. Et l'héritage, évidemment, c'est notre magnifique maison du peuple. Et puis ce qu'on appelle l'école de Saint-Claude, un communisme sociétaire.
Roger, ça vous dit qu'on aille se balader un peu dans le marché ?
Tout à fait, je suis prêt à vous suivre.
Et après, on revient ici chez Dom.
Eh bien, allons-y.
Allons-y. Roger, vous êtes arrivé ici, au lycée de Saint-Claude, comme professeur d'histoire. C'était votre première mutation.
Oui.
Vous n'étiez pas forcément destiné à rester ici. Et vous êtes resté ici, je peux dire votre âge. Vous avez 80 ?
Trois. Oui. Ben, je suis resté par choix. Et lors de ma retraite, eh bien, je suis resté parce qu'il y a un fonds d'archives les plus riches archives ouvrières de la région. Et ce que j'ai aimé à Saint-Claude, c'est le fait que quand on va sur une piste de ski ou quand on va assister à un match de rugby, les barrières sociales sont effacées. La tradition était qu'on aille fêter la Saint-Jean, sauter le feu avec les élèves, aller guincher quelquefois, gentiment. Il y avait des repas traditionnels. J'ai été très attaché par cette facilité des contacts, cette simplicité, ce fond aussi peut-être paysan. Ces bâtisseurs de la maison du peuple étaient restés au fond des paysans. Ils ne s'en laissaient pas compter.
Sans mauvais jeu de mots avec le comté.
Voilà, c'est ça, si on peut dire, oui.
Ici, on est en Franche-Comté et on est dans ces franches montagnes. On voit autour de nous les sapins. Il y a une nature préservée. On oublie presque que le Jura a été ce pays industrialisé parce qu'on a un site remarquable ici, très touristique, avec une nature majestueuse.
Tout à fait. C'est ce qui d'ailleurs aussi m'a retenu à Saint-Claude. Moi, venant des quartiers industriels de Lyon, du quartier des usines Lumière, j'avoue que j'ai été séduit. Je me croyais en vacances à Saint-Claude. En fait, les usines, ici, on ne les voit pas. Elles se cachent dans le fond des vallées. Et puis, ce sont souvent de petites industries assez dispersées dans les villages, des petits ateliers. Donc,
oui,
on ne les voit pas.
Ici, c'est une ville assez émouvante, je trouve, touchante, parce qu'elle est restée comme figée dans une époque. J'ai l'impression qu'on est dans les années 70, fin 60, que rien n'a bougé vraiment.
C'est vrai parce que l'exemple, c'est la maison du peuple, construite en 1910, qui est aujourd'hui encore telle qu'elle était pratiquement au moment de son inauguration.
Même les boutiques, même les bars, l'accent.
L'accent.
On a l'impression d'être dans un film de Bertrand Tavernier quand même un peu.
Assez, oui, Bertrand Tavernier aurait aimé, je pense. On pense au quartier de Saint-Paul à Lyon, si vous voulez.
Ouais.
C'est ce genre de rue, ce genre de vie.
Ça vous plaît, ça ?
Ça me plaît beaucoup, mais quand même, il faut bien vivre. Et donc, je souhaite, c'est qu'à nouveau, on puisse trouver une formule pour attirer des industries. Mais des industries légères, dans l'électronique, par exemple.
C'est-à-dire se moderniser un peu.
Des industries, carrément, je dirais même
des start-up, allons-y.
Des start-up, pourquoi pas. Pourquoi pas des start-up. Voilà, moi je dirais que, quelles que soient les options politiques, quoique la Fraternelle se situe dans cette tradition ouvriériste de Saint-Claude, mais je dirais, si j'avais des fils, va à la Fraternelle, tu vas y voir des hommes et des femmes. C'est-à-dire des gens voilà, qui connaissent la vie, qui savent comment fonctionne la société, avec parfois des engueulades, mais qui portent toujours sur un fond qui est quand même quasiment philosophique.
C'est un fond voltairien.
Oui, aussi.
Des Lumières. Vous, Roger, vous aimez Voltaire.
La philosophie de l'action.
De l'action, exactement. Contre les
Voltaire,
injustices aussi.
Voltaire, c'est l'action. Hein, c'est une philosophie de l'action. C'est pas un philosophe de l'abstrait. Et c'est un philosophe de l'action qui s'est engagé, y compris pour Saint-Claude, pour lutter contre le servage qui était maintenu dans la terre de Saint-Claude jusqu'à la Révolution française. Il a échoué, d'ailleurs.
Aujourd'hui, Voltaire, qu'est-ce qu'il dirait s'il était à Saint-Claude aujourd'hui et s'il voyait ces usines comme la fonderie MBF, cette maternité à Saint-Claude qui a fermé, ces petites industries partout dans la région qui font des plans sociaux, comment il verrait ce bassin industriel en train d'être déserté ?
Alors Voltaire simplement se ferait entrepreneur, comme il s'était fait entrepreneur à Ferney. Il a créé à Ferney des usines de montres. Donc il a fait de ce village un centre industriel. Là, je crois qu'il aurait des idées pour Saint-Claude.
On va aller discuter un peu avec les gens du marché. Venez, Roger. On va leur poser quelques petites questions. On vient vous voir, monsieur. Bonjour. Vous vendez des fromages de chèvre, vous vendez pas du comté?
Non. On revient à la chèvre parce que les terrains ici s'y prêtent énormément. Et au départ, voilà, les chèvres servaient aussi à nourrir les nobles et les vaches servaient à nourrir les pauvres, en gros.
Et vous nourrissez qui, vous, alors, les pauvres ou les nobles?
Ça reste encore un petit peu les nobles.
C'est vrai?
Ouais.
C'est plus cher?
Le lait est plus cher, oui. Au final, est plus cher que le lait de vache, quoi.
On parlait avec Roger de la désindustrialisation ici. On parlait de la fin de la fonderie MBF.
Ça, c'est pas fini, je pense.
C'est pas fini?
Je pense, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, je pense qu'on va pas sur des beaux jours, quoi. On était déjà une cité dortoir, mais je pense qu'on va finir par devenir une cité mouroir.
Voilà.
C'est pas optimiste, hein?
Non, pas très optimiste.
Non. Tous, les gens vont ailleurs, quoi. Vont où il y a de l'économie, en gros.
Vous, ça fonctionne bien, les fromages, ça va?
C'est compliqué aussi, oui. Déjà, faire du chèvre au pays du comté, c'est compliqué.
C'est vrai que vous n'avez pas choisi la facilité.
Non. Et puis, en plus, nous, on est paysans, donc très peu de foncier. Et puis, ça, c'est un autre souci aussi, quoi. Voilà.
On va goûter?
Les goûter quoi?
La tomme?
Ah, bah oui. Ouais. Vous voulez goûter, Roger?
Oui, je veux bien.
C'est vous qui faites tout?
On fait tout. Donc là, c'est de la tomme nature.
C'est super bon. Ça nous réconcilie avec l'existence, ça, Roger?
Tout à fait, oui, les fromages. L'existence sans le fromage.
Tristes sont ceux qui n'aiment pas le fromage.
Sans le fromage et le vin, bon, je pense.
On ferait rien.
Ça peut, effectivement, il n'y aura pas beaucoup de plaisir.
On ferait peu de choses.
Voilà.
Je crois que j'ai encore envie de vous en piquer un bout. Il est à quoi, celui-ci?
Au fenugrec. C'est une céréale.
Il a un peu goût de noix.
C'est ça, un petit goût de noix anisée.
Votre chèvrerie, elle s'appelle Barbie chez Pampille.
C'est ça.
C'est très mignon.
Merci.
Vous n'avez pas de barbiche?
Non, et j'ai pas de pampille non plus.
Ouais, vous avez une petite boucle d'oreille.
Et à 3-4, ouais.
Vous avez des petites pampilles à l'oreille.
C'est par rapport aux années, ouais.
Ça veut dire que vous avez 40 ans.
Un peu plus de 40 ans, voilà. On va être à la 5e quand on aura dépassé le cap.
Allez, longue vie à Barbiche et Pampille.
C'est ça, Barbiche et Pampille. Merci à vous. Merci.
Salut. Roger, vous avez fini votre petit bout de fromage? Je vous laisse le finir. En face de nous, il y a ce camion où il y a écrit « Philomobile ». On dirait un camion de la poste, mais c'est le courrier philosophique qui déambule.
Voilà, tout à fait. C'est la philosophie de Socrate aussi, c'est la philosophie du portique, non? C'est ça.
C'est ça.
N'est-ce pas? Je demande à la philosophe.
Bonjour Laurence.
Bonjour.
Vous êtes Laurence Boucher, vous avez un camion philo.
Oui.
Et comme Socrate, vous vous déplacez et vous allez à la rencontre des gens un peu partout dans les quartiers ici autour de Saint-Claude. Pour, non pas distribuer la bonne parole, mais écouter et partager la parole.
Exactement. Donc, je suis allée dans les quartiers de Saint-Claude, à la fois en centre-ville, mais aussi au pied des bars HLM, quartier des Avignonnais, quartier de Thomachon. Et l'idée, c'est de discuter avec les gens, de savoir comment ils pensent, de les questionner un peu comme faisait mon maître Socrate. Puis de les inviter à questionner leurs opinions aussi, parce qu'il ne suffit pas de claquer dans ses doigts pour penser. En général, on répète ce qu'on entend autour de nous. Et là, c'est essayer de questionner ce qu'on pense, voir si on est d'accord entre nous, apprendre à dialoguer aussi, à écouter les autres.
C'est génial comme idée.
En tout cas, c'est une idée qui me plaît bien. Moi, ça, je m'amuse bien à faire ça et je rencontre vraiment des personnes extrêmement variées et depuis que je fais ça.
J'aimerais bien qu'on l'ouvre, ce camion philo.
Alors,
on peut voir.
Emmène.
Venez, Roger. Très fan de cette idée. On est à l'intérieur de votre camion, Laurence Boucher. Il y a une petite étagère avec des bouquins. Qu'est-ce qu'on a comme bouquin? Évidemment, on a les livres de philo. On a Nietzsche, Humain trop humain. Hannah Arendt, Vie politique.
Ils sont pas tous là, hein, tous mes préférés.
Il y a un petit côté comme ça, cabinet de psychanalyse aussi.
Ouais. Oui, alors ce qui m'intéresse dans la philo, c'est pas que ça soit une pure théorie déconnectée de ce qu'on peut vivre, c'est sa dimension aussi existentielle. Donc ça peut s'apparenter à la psychanalyse, bien que ça soit quand même très différent. En tout cas, le point commun, c'est connais-toi toi-même, c'est ce que disait Socrate. Et apprendre à se connaître, c'est un vrai travail. Et par le questionnement, on arrive à mieux se connaître.
La déambulation, nous on la pratique tout le temps dans cette émission. Aristote disait que la pensée se met en mouvement quand le corps est en mouvement aussi.
Oui, alors on trouve beaucoup de philosophes, d'écrivains qui, en marchant, trouvent leurs idées. D'ailleurs, moi, ce que je fais assez souvent, ce que j'ai fait ce matin avant d'arriver, j'arrête mon camion, en plus dans le Jura, c'est tellement beau, et je vais marcher. Si je suis assise devant mon bureau, ces idées-là, elles vont pas venir. Par contre,
elles se figent un peu.
Elles vont se figer. Par contre, je vais pouvoir les écrire, mais il faut vraiment un moment de déambulation et même en conduisant, en fait. J'aime beaucoup conduire à travers les routes du Jura. Là aussi, il y a des idées qui viennent, ouais.
Vous allez dans les quartiers, vous allez aux Avignonnais, ici, on en a parlé, c'est un quartier HLM de Saint-Claude. Vous allez voir les jeunes de ces quartiers qui parfois se disent « la philosophie, c'est pas pour moi ». Il y a une forme d'autocensure dans les quartiers populaires et dans les villages et dans les zones rurales qu'on n'a pas dans les grandes villes.
Oui, alors je distingue la philosophie de l'érudition. Dans les grandes villes, on trouve effectivement des gens très érudits. Ça ne veut pas dire qu'ils savent nécessairement réfléchir. Mais réfléchir, ça n'est pas la même chose qu'être cultivé. On peut très bien réfléchir. Moi, je fais des ateliers avec des agriculteurs. Je fais des ateliers...
Dans les prisons.
Dans les prisons. J'en ai fait donc au pied des barres HLM, quand je vois des jeunes là, qui sont là, ils ne savent pas quoi faire. Alors moi, j'arrive avec mon camion, je leur dis, vous voyez, vous voulez faire un peu de philo. Alors au début, « Ouais, madame, vous allez nous prendre la tête !» Et donc c'est l'idée qui se font de la philo. C'est quelque chose qui nous prend la tête, qui est compliqué, qui est complètement abstrait. Et puis petit à petit, après, je les questionne sur les questions qu'ils se posent, en fait.
Ils se posent quelles questions? Qu'est-ce qu'ils vous posent comme questions?
Voilà, alors, très souvent, ce sont des questions, comment réussir ma vie? Comment gagner de l'argent? Alors, on va se questionner sur l'argent. Pourquoi tu veux de l'argent, au fait? Est-ce que tu sais pourquoi? Oui, pour vivre.
Pour m'acheter une maison, pour m'acheter une voiture.
Maison, mais c'est souvent aussi pour s'acheter une grosse bagnole, des vêtements de marque. J'ai questionne, mais pourquoi tu veux un vêtement de marque? Et donc là, c'était très joyeux, en fait, de discuter avec ces jeunes et de voir qu'on est de cultures parfois différentes, on a des âges différents, on est capable de philosopher ensemble et de se questionner.
Comment elle est venue cette idée, Laurence? Comment vous vous êtes dit, allez, je m'achète un camion, je vais faire de la philosophie itinérante dans le Jura?
Alors d'abord, il y a eu au bout de 25 ans quand même une certaine lassitude au lycée. Quand on a fait 25 ans la même chose, on a envie de changer. Et puis j'ai commencé à travailler un peu en prison. Quelqu'un m'avait dit, tiens, tu ferais de la philo en prison. J'y suis allée. Et là, j'ai vu qu'en fait, ça prenait un enjeu existentiel beaucoup plus fort qu'au lycée. Et ils ne sont pas obligés, les détenus, de venir à l'atelier philo. Mais ceux qui viennent, c'est parce qu'ils se disent, mais vraiment, maintenant, il faut que je réfléchisse. En plus, maintenant, j'ai du temps pour réfléchir. Il va être temps de voir comment je peux redresser ma vie. Parce que parfois, ils se sont laissés déborder par des choses qui les dépassaient. Les lycéens, ils sont obnubilés par les examens et par leur parcours sup, par le bac. Et ils ne sont pas prêts à réfléchir. Pour réfléchir, il faut vraiment se poser, il faut prendre le temps.
Je me baladais dans Saint-Claude hier soir et je me disais, c'est un peu mort quand même. Il n'y a pas grand-chose là en ce moment pour les jeunes. Alors on m'a dit, oui, mais va vers le gymnase. Il y a l'équipe de basket. Donc je suis allée au gymnase et je suis allée voir l'entraînement des joueurs du Haut-Jura Basket Saint-Claude. Et j'ai croisé Samy. Samy, vous l'avez peut-être croisé, Laurence, avec votre camion de philosophie. Il habite aux Avignonnais. Donc c'est cette cité HLM dont vous parliez tout à l'heure. Je suis sûre que vous l'avez rencontré. Samy, il fait 1m90. C'est pas le plus grand de l'équipe de basket, mais c'est bien le plus bavard.
France Inter. Rendez-vous place du marché.
Vous avez quel âge, Samy?
J'ai 24 ans.
Vous êtes grand parce que vous êtes basketteur.
Ouais, c'est ça, exact. 1m90, ça va. Je fais pas partie des plus grands.
On est au terrain de basket, quoi, ouais. Le gymnase.
Le gymnase, ouais, exactement, ouais.
Et donc c'est l'équipe de Saint-Claude, elle a un nom, l'équipe de basket de Saint-Claude?
Oui, c'est la JBSC, ouais. Au Jura Basket Club Saint-Claudien.
Samy, vous habitez dans quel quartier de Saint-Claude?
J'habite au quartier des Avignonnais. C'est au-dessus de Saint-Claude, c'est le quartier le plus visible.
Est-ce que vous faites des études?
Non, moi j'ai pas fait énormément d'études. Moi, j'ai commencé par faire des études dans le bâtiment. J'ai un BEP dans l'installation thermique et un dans l'électricité, mais c'est pas des métiers que je favorise. J'aimerais être éducateur sportif.
Parce que là, votre travail, pour gagner votre vie, vous faites quoi?
Là, actuellement, je fais des missions intérim. Donc après, quand on est Saint-Claudien, on a la chance d'avoir la Suisse pas très loin de chez nous. Ouais. Et ça, c'est un avantage qu'on a. On peut gagner énormément d'argent. Donc je fais des métiers que j'aime pas forcément, mais je le fais quand même. Chauffagiste, électricien, pour moi, c'est des métiers un peu de galérien. Moi, après, mais je fais avec.
Et vos parents, ils font quoi?
Ma mère, elle travaille aux cuisines de l'hôpital de Saint-Claude. Et mon père est à la retraite depuis presque une dizaine d'années. Ouais. Donc il s'occupait de refaire les routes, tout ça, les travaux publics, je crois que ça s'appelle, c'est ça. Ouais.
Travaux publics.
Ouais, exactement. Ouais.
Et vous, vos parents, Samy, ils sont arrivés d'où?
Alors mes parents sont algériens, sont arrivés d'Algérie. en 1954 pour mon père et je crois dans les années 70 pour ma mère.
Avait besoin de main d'œuvre, la France avait besoin de main d'œuvre.
Exactement, ouais, c'est exactement ça. Et après aussi, ils ont fui aussi un petit peu la guerre d'Algérie. C'est un peu le bordel. Et du coup, ouais, voilà, ils sont installés en France au début à Saint-Claude. On était une grosse famille de base.
Ils sont venus ici parce qu'il y avait du travail aussi. C'était une ville ouvrière, un bassin d'emploi très fort, Saint-Claude, à l'époque de vos parents.
Exactement, ouais. Il y avait à peu près, je crois, 20 à 22 000 habitants. Aujourd'hui, on est en dessous de 10 000. Donc c'est vrai qu'avant, il y avait énormément de travail. Et aujourd'hui, de moins en moins. Il faut essayer de trouver autre chose que l'industrie, parce qu'ils travaillaient beaucoup dans l'industrie à l'époque.
La Suisse, c'est une porte de sortie.
Porte de sortie, ouais. Après, c'est pas facile d'accès. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on y est installé, c'est un changement de vie.
Par exemple, en Suisse, le salaire pour le même boulot.
Ouais, la différence de salaire, ouais, franchement, elle peut vous choquer. Je pense que c'est limite le double. Hein. Par exemple, on peut, en tant qu'électricien, je pense qu'on va être à 1004, 1005. Allez, si on arrive à monter à 1008, c'est bien. En Suisse, c'est tout de suite 3000, 3000, 3005. Donc, ça change une vie.
Vous rêvez de quoi, Samy, pour votre vie à vous?
Si j'avais un rêve, ouais, ce serait de bien réussir ma vie, de pouvoir m'acheter une belle villa et devenir professionnel au basket aussi. C'est un truc dont je rêve depuis que je suis petit, mais ouais.
Bon, je vais vous laisser.
Merci beaucoup. Ouais, c'est parti, ouais.
Bon, allez sur le terrain, là.
Merci, ouais, c'est parti, go.
We're on a yacht. A young lady just fed me French vanilla ice cream. We all got our toes out too. Call me when you get lost.
I'ma travel the globe. You keep the block hot. Driver, open the door for me. My hair hurt. Find us. We playing hide and seek with the passports. Where the fuck we at? Oh, the pilot gotta remind us. Yeah. The luggage is piling, I need a clothes to wear. So many stinky sit in my wallet, look like a folding chair. The Cartier so light on my body, thought I floated here. We boated here, it's Tunchi and Tyler, but call me Baudelaire. Yeah, out in Switzerland, travel with my bitch. Yeah, we kissing dog, I love when she let me rub her like Michelin. 100 grand asleep on the bird, the wings are whistling like... Man, they ain't listening. We cross the line like immigrants and benefit from it. Keep on stunting on these niggas, make them sick to their stomach, man. Y'all don't understand. Fish so fresh that you can taste the same. Yeah, we getting lost, but we know who we aim. Bada, 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 son, son, son. And treat that last part like you niggas ain't saying nothing. Yeah.
You see these excursions right here? Just too lavish to post on the gram.
Excuse me, pardon me. The wind it blows so hard to me, like Mother Nature arguing about some baby father beep. And I'm stuck in the middle of the sandwich, like slaughter me. Got my middle fingers to the cameras, that's recording me from y'all to me. Brrr. Stop calling me unless you're ordering. I'm on the beach, I got my feet out, and I stay on my feet. The corner beat, I'm on a deep route. Just throw the ball at me, thought all this lean would have me see now. I guess they see now, that's touchdown. Catch a beat down, like I catch touchdowns. I fuck around and slow the beat down and take the drums out. The speed of my blow, I'm so greedy, I'ma eat my own flow. And I'm in need of a flow, I'ma eat me a rap, but I might as well eat me a hoe.
Oh.
I'm hot as hell when the weather is freezing the cold, as a devil, a demon, and ghost. I'ma get even to even, get even some more. It's too late to even get low, by wolf gang, that's what I need you to know. Moonlight, Weezy the goat, the wind beneath my wings, desert eagle underneath my coat. Yeah, mula.
Bitch. Hard wings.
Voilà, messieurs, dames, café au lait, voilà, merci à vous.
Dom.
Oui, dis-moi.
On est de retour dans votre café, le café de la place.
Vous avez fait votre petit tour sur le marché?
On a fait notre petit tour sur le marché. Là, c'est votre job, Dom.
D'accord. On a écouté Taylor, The Creator. Et le morceau s'intitule Hot Wind Blow.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Aurélie Sfez.
Naïl Yalcin et Hakima Haïb, vous nous avez rejoints tous les deux au café. Vous, Naïl Yalcin, vous êtes ouvrier, vous êtes représentant CGT à la fonderie MBF Aluminium. Vous occupiez un poste à l'usinage, c'est ça ?
Effectivement, je travaillais à l'usinage chez MBF Aluminium depuis 2001.
On parle au passé, on dit vous occupiez.
On peut dire qu'on occupait ce poste-là puisque le 22 juin, l'entreprise a été liquidée par le tribunal de commerce de Dijon.
Hakima Haïb, bonjour.
Bonjour.
Vous, vous êtes aide-soignante, vous êtes aussi mère célibataire de 5 enfants. Et vous allez nous parler ici de la maternité qui a fermé, il n'y a plus. Service pédiatrique, il n'y a plus non plus.
Il reste que de la médecine.
Il reste que de la médecine.
Médecine et service de dialyse. Et puis là, apparemment, on veut aussi nous supprimer une partie du laboratoire, donc qui est encore à l'hôpital, et une partie de la pharmacie. Donc tout ça va être géré par l'ONS.
L'ONS, c'est où ?
C'est la préfecture du Jura.
Voilà. C'est à combien de kilomètres de Saint-Cloud ?
60 kilomètres quand même. Hein. Oui, quand même. 60 kilomètres avec une route pas très très facile. Hein. Parce qu'on est quand même dans un bassin où il y a quand même plus de 8000 habitants. Et la géographie de Saint-Cloud fait que on a besoin justement de ces infrastructures hôpitales et puis le fait que les gens de Saint-Cloud se sentent en sécurité.
Est-ce que vous confirmez qu'aujourd'hui on voit des femmes qui accouchent au bord de la route parce que la maternité est fermée et qu'elles elles se retrouvent
à 60
km, elles accouchent au bord de la route.
Elles accouchent au bord de la route et ce qui est terrible, c'est qu'elles mettent en danger leur vie. La vie de l'enfant et puis la vie d'une famille, parce que c'est quand même une personne qui perd un enfant parce que l'hôpital est à 60 km, c'est une déchirure pour toute la famille. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois que les femmes accouchent aussi bien dans l'ambulance qu'au bord de la route. Et ce sont les pompiers qui ont suivi une formation, ce sont les médecins urgentistes à qui on a demandé, l'ONS a demandé à ce que les médecins urgentistes suivent une formation de gynécologie. Voilà, on en est là.
Vous avez entendu ces histoires de femmes qui accouchent au bord de la route ?
Oui, il y en a eu beaucoup ces dernières années. Hein. Malheureusement, c'est la politique qui est menée par nos dirigeants, tout simplement. Ce qu'on disait, la rentabilité, la financiarisation des services publics, c'est la stratégie opérée depuis maintenant, je vais dire, des décennies. Hein, et on en est arrivé là. Pour revenir sur MBF...
La fonderie... Rappelez-nous ce qu'elle faisait, cette fonderie. Voilà.
Cette fonderie, elle faisait des pièces très techniques, complexes pour le secteur de l'automobile. Elle existait depuis 70 ans hein, sur Saint-Claude. Il fut un moment où il y avait plus de 1000 salariés qui vivaient de ce travail-là. Aujourd'hui, bon, avec les stratégies de délocalisation, on n'était plus qu'à 280 salariés. Aujourd'hui, elle a été liquidée. L'entité MBF a été liquidée, mais on avait aussi des pièces qu'on appelle des marchés émergents, hein, tels que l'hybride, l'électrification, et ça, ils en ont pas tenu compte. Et pour tout dire, elle avait encore 5 ans d'activité devant elle. Le carnet de commandes était plein.
Parce que l'argument du patron de Renault, c'était de dire il faut créer de nouveaux modes d'industrialisation écologique. Et ces modes de fonctionnement, comme la fonderie de Saint-Claude, sont obsolètes.
Ils disent ce qu'ils ont envie de dire, c'est un discours de façade. Alors qu'on a des centres d'usinage, des presses qui ont quasiment moins de 5 ans. L'outil productif est pas obsolète. L'alliage que nous utilisons à Saint-Cloud, c'est de l'aluminium. Et l'aluminium a encore des décennies à vivre, puisque l'aluminium est un matériau léger, solide, mais aussi qui a la propriété d'être recyclable à l'infini. Comme on a quelques pourcents de pertes, mais les pièces pour les véhicules électriques, ce que je disais, on les faisait. On a développé, en tout cas, le seul moteur hybride de Renault. Il a été développé avec des ingénieurs de Saint-Cloud.
Laurence de la Philomobile, au sujet de l'homme et du travail.
Oui, et effectivement, hein, il parvient à fédérer un mouvement. Peut-être qu'il s'inscrit aussi dans une tradition franc-comtoise de combat, de lutte, de solidarité. Et ça, je trouve ça très beau en même temps. Alors, c'est très dur, mais c'est très beau et il prend de sacrés risques. Alors, mais là aussi, c'est peut-être une tradition, hein, puisque dernièrement, il me racontait que dans un combat, il s'est retrouvé, on lui a mis les menottes. Alors, c'est quand même pas un délinquant, c'est quelqu'un qui se bat pour le bien de MBF et peut-être même au-delà de MBF, peut-être pour la France aussi, hein, un pays qui est en train de perdre son industrialisation. Donc, voilà, moi, je trouve ça très beau.
Est-ce qu'il y a de la beauté dans la lutte, Naïl ?
C'est la fraternité, en tout cas, ça me fait plaisir de lutter pour justement garder ce lien social à travers le travail. Et c'est ce qu'on veut garder à Saint-Claude avec les MBF. On a le projet de créer cette coopérative de salariés, d'ouvriers pour reprendre l'activité de MBF.
Donc chacun pourra être un peu patron et actionnaire de son propre travail ?
C'est le but de la coopérative, c'est d'être sociétaire de la SCOP, hein, tout simplement. Sociétaire ne veut pas dire patron. On est quand même soumis à des règles de réglementation du travail, tout simplement, parce que...
Qui est le patron dans ce cas-là ?
C'est l'ensemble des salariés qui élisent en tout cas un conseil d'administration avec un président. C'est vraiment le monde associatif, hein, qui oriente les stratégies, les investissements. Et une coopérative n'a pas vocation, en tout cas, à rémunérer des actionnaires.
Chose par rapport à la jeunesse, parce que je demandais tout à l'heure à Naïl et comment ça se passe dans votre famille, parce qu'il est très engagé, il a des enfants, et Naïl disait, mes enfants, ils sont fiers de leur papa, ils sont fiers de voir qu'ils se battent pour des vraies valeurs. Je trouve ça vraiment chouette, parce que il y a, finalement, parfois, je rencontre des jeunes, ils sont fiers d'être allés en prison. Je trouve ça tellement dommage, quoi. Il y a quand même des choses mieux à faire dans la vie que d'aller en prison. Et Naïl, il montre ça. Et Hakima aussi, il montre que on peut se battre et on s'inscrit dans une tradition de gens qui gardent un certain honneur.
Voilà, on a besoin de garder cette dignité, de se dire que nos enfants nous regardent, mais avec des yeux qui sont encore pleins d'espoir et qui brillent, et puis que rien n'est terminé, quoi.
Mais on se dit aussi que si l'État ne peut pas nous aider, on va s'aider soi-même.
Bien sûr, on parle de coopérative, mais c'est très très bien. La fraternelle que vous allez peut-être découvrir.
On va y aller tous ensemble.
Elle a commencé comme ça.
La fraternelle, elle a commencé à un moment où il n'y avait ni sécurité sociale, ni assurance chômage, pension de vieillesse. Les ouvriers de Saint-Claude, il y avait une délibération au conseil municipal pour admettre un tel à l'hôpital, c'est-à-dire un mouroir, sous la coupe d'ailleurs des bonnes sœurs.
Voilà, exactement.
Voilà.
Vous l'avez vécu, ça ?
Oui, parce que moi, je suis née à Saint-Claude. Donc, ma maman me racontait que quand elle m'a eue, c'était les bonnes sœurs qui s'occupaient des femmes qui venaient de mettre au monde des enfants. Et il y avait les bonnes sœurs, justement, qui passaient voir les malades, et j'ai vécu cette époque-là.
C'est-à-dire que Saint-Claude, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de traditions. Il y a toujours eu à Saint-Claude, moi j'appellerais ça les Noirs, c'était ceux qui étaient plutôt pro-tradition, pro-église, tout ça. Ensuite, il y a eu la génération des philosophes, les pro-voltairiens au XVIIIe siècle. Et puis alors au XIXe, il y a eu les Rouges, tout le mouvement,
la gauche,
le mouvement ouvrier. Et puis à Saint-Claude, ensuite, on est devenu Rouge-Noir, c'est-à-dire... Mais ça parle le même sens, socialo-anarcho, hein, c'est-à-dire, voilà, et ça c'est la tradition ouvriériste qui a généré la fraternelle, voilà. Puisqu'on on y vient, tout ce mouvement coopératif dit de l'école de Saint-Claude.
Mais alors aujourd'hui, on a qui ? On a quoi comme socle ? On n'a plus la religion catholique, on n'a plus les Rouges, on n'a plus les philosophes. Qu'est-ce qui tient la société saint-claudienne, par exemple, et la société française ? On peut... quelle idéologie ? Sur quoi ?
Nos valeurs. Et la diversité, exactement. Un petit peu de chaque, de partout, le mélange.
La richesse,
voilà.
On va tous partir à la fraternelle, mais avant on va écouter un chanteur qu'on aime bien, j'imagine qu'on l'aime bien ici à Saint-Claude, c'est Jean Ferrat.
En tout cas, beaucoup de manifestations le mettent souvent, Jean Ferrat.
Jean Ferrat, c'est un patron des ouvriers. Hein.
C'est ça.
Et d'ailleurs il chante « Ma môme », vous la connaissez cette chanson, « Ma môme » ?
C'est
un peu vous ?
C'est un peu nous.
Hein, c'est un peu vous la môme.
Exactement.
Vous jouez pas les starlettes ?
Pas du tout.
Vous portez pas des lunettes de soleil ? Vous travaillez
même
à l'usine ?
Même pas.
On l'écoute, c'est Jean Ferrat, ma môme.
Ma môme, elle joue pas les starlettes. Elle met pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines. Elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'ensommeille, chez nous il y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête sur ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. On se dit toutes les choses qui nous viennent, c'est beau comme du Verlaine, on dirait. On regarde tomber le jour et puis on fait l'amour en secret. Ma môme, elle joue pas les starlettes, elle met pas de lunettes de soleil, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil.
Merci Dom, on va à la fraternelle.
Merci du petit moment, c'était très agréable. À bientôt.
Qu'est-ce qu'on vient d'écouter? On vient d'écouter Jean Ferrat.
Bien sûr, jolie môme.
Non, ma môme.
Ma môme, ah oui, je confonds avec une autre chanson. J'ai bien, je me suis embrouillée.
Merci pour votre accueil.
Oh, non, c'est normal, et j'adore France Inter.
Quelle faillotte.
Oh non, pas du tout, c'est pas vrai, parce que c'est la seule radio qui craque pas chez moi.
Il faut changer de poste de radio, Dom.
Non, j'adore.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Aurélie Spez.
On marche dans Saint-Claude, on marche tous ensemble.
Le premier bar de la
l'ancien
Dame.
Bar.
Ah, ouais. L'ancien bar de Dom.
Ouais. Où j'ai passé mon adolescence et ma jeunesse ici, en fin de compte.
Ça s'est transformé en bodega espagnole.
Ouais. On jouait au billard, au flipper ici.
Ouais. Mais vous ne quitterez pas Saint-Claude, hein, non, vous, Naïl, hein.
Non, je ne quitterai pas Saint-Claude. En tout cas, pour le moment, je compte travailler, continuer à travailler encore à Saint-Claude. Et je veux que mes enfants grandissent à Saint-Claude aussi.
Et on y est, devant cette maison du peuple. Travailleurs de tout pays, unissez-vous. On la voit, cette fresque qu'on a commentée avec Roger, de ces deux hommes qui se tiennent la main, telle la chapelle Sixtine.
C'est la création de l'homme par l'homme, c'est-à-dire c'est la pleine humanité... par les hommes, par leur association, par leur fraternité, par un créateur dont on ne sait pas finalement ce qu'il est, où il est, s'il existe ou pas.
On y va ?
Oui.
On rentre dans cette fraternelle, tous ensemble. Donc on s'est installé ici, dans la cour de la fraternelle. Christophe Jeuneau, vous êtes le directeur de ce qu'on appelle la frat. Mais nous, on s'est dit avec nos amis tout à l'heure qu'on aimait bien dire la fraternelle.
Oui, effectivement, beaucoup de gens ici disent la frate. Hein, c'est une histoire qui a plus de presque 140 ans maintenant. Et donc, oui, la frate, les frateux, la fraternelle.
Les frateux ?
Oui, les frateux, les frateuses. Voilà, ce sont les gens qui font vivre la maison du peuple.
Roger, vous êtes un frateux ?
Depuis très longtemps, mais j'ai longtemps été aussi très absorbé par mon travail de prof. Voilà, je suis heureux d'être ici. Et je suis heureux d'être dans cette cour surtout. Mais ce que j'aime aussi, c'est vraiment le lieu de rencontre. C'est conçu pour être un lieu de rencontre. C'est un lieu un petit peu foyeriste pour ça. De cette porte ici sortaient les personnes qui travaillaient à la crèmerie, à la boulangerie, une cave à vin. Ils sortaient par là. Il y avait ceux qui sortaient du théâtre, du cinéma. Et hop, ils se rencontraient là. Puis il y avait la.
Oui, ça faisait comme un petit village, en fait.
Ah, ça faisait, voilà, c'était un peu un village.
Dans la ville.
Tout le monde se retrouvait ici. Et j'aime bien ce frottement et ce croisement. Et on allait refaire le monde ensuite au bistrot ou se distraire tout simplement.
Christophe, la fraternelle ici, c'est toujours ça. C'est toujours ce petit village dont nous parle Roger. C'est cet endroit où on se rencontre.
C'est la vocation, ouais. C'est tout le projet de l'association, de s'inscrire dans la continuité de ce mouvement coopératif et qui avait vocation aussi à faire de l'éducation populaire. Le théâtre à l'italienne, première projection de cinéma, parce que c'était aussi une salle de cinéma, 1910, 24 septembre 1910.
Le cinéma, il est toujours là, il est à notre gauche.
Oui, en fait, on gère d'ailleurs 4 salles de cinéma, il y en a 3 ici.
Danse, musique, théâtre.
Un secteur art plastique extrêmement important, puisqu'un étage entier de ces 4000 m² est voué à l'imprimerie, donc avec un atelier sérigraphie et un atelier typo aussi, typographie.
Cette fraternelle, elle rassemble, mais elle divise aussi. Il y a des gens qui nous ont dit, moi je vais pas à la fraternelle, parce que c'est les cocos. Nous, on préfère faire une heure de route pour aller au cinéma plus loin plutôt que d'aller à la fraternelle. C'est une fraternelle qui est fracturée un peu.
C'est clivant, malheureusement, mais c'est comme ça. On a effectivement une image d'être un endroit pour certains élitistes aussi, alors que c'est pas vrai du tout. En fait, la programmation qu'on fait, c'est une programmation qui allie aussi bien, et par exemple la programmation du cinéma est à l'image du reste, hein, c'est-à-dire que on va aussi bien passer de l'ARC, puisqu'on a les trois labels du CNC à ARC, et en même temps on passe tous les blockbusters et toutes les grandes comédies familiales. Et au niveau de l'ensemble de la programmation, nous sommes exactement dans la même chose, c'est-à-dire que on fait une programmation exigeante mais populaire.
Comment vous espérez réunir réellement tout le monde ? C'est possible ou c'est une utopie de réunir tout le monde ?
C'est possible, bien sûr, comme toutes les utopies, je dirais. Et voilà, non, sérieusement, en fait, c'est un travail de quotidien, de fourmi. Ça passe aussi par justement l'éducation populaire et le fait de travailler avec la jeunesse des environs, de leur faire découvrir des formes d'expression, des pratiques artistiques, de les sensibiliser, de faire de l'initiation.
Vous, Christophe Jeuneau, comment vous avez été élevé, vous ? Avec quelles valeurs pour vous retrouver directeur aujourd'hui de la Fraternelle ? J'imagine que ça ne doit pas venir de nulle part.
Ouais, j'ai été élevé dans des principes républicains, clairement. Voilà, c'est sûr. Quand on travaille à la FRAT, quelle que soit la place qu'on occupe, bénévole ou salarié, on s'inscrit dans une chaîne. On est le maillon d'une chaîne. On n'est jamais tout seul, en fait.
Et on n'est jamais tout seul non plus devant une bonne bière.
Oui, bah hein, oui,
le
fantastique.
Devant une bonne bière, on se fait des amis, Roger.
La bière ou le simplement un panaché bien blanc pour moi.
Émile Maffre, à ma gauche, vous êtes là. Est-ce que vous êtes un frateux ?
Me revendique pas en tant que tel, en tout cas. Après, je suis arrivé dans le Haut-Jura il y a 7 ans. Donc je venais d'une grande ville, peut-être même la capitale. Quand je suis arrivé ici, ça a été une grande surprise de découvrir un lieu comme la FRAT et de savoir qu'il y a un endroit comme ça dans une petite ville comme Saint-Claude. Pour moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup surpris.
Il y a des gens qui restent ici rien que parce qu'il y a la Fraternelle. Il y a des gens, ça les maintient, ça les tient ici.
Je sais pas. Après, pour moi, c'est une offre, on va dire culturelle très urbaine, qui est digne plutôt de ville. Enfin, tu vois, un cinéma à réessai. Il y a Oyonnax, qui est une ville plus grande que Saint-Claude. Je pense pas que ce soit un cinéma à réessai, etc. Donc, c'est une offre qui est pour moi très qualitative et qui est surprenante quand on arrive d'une grande ville. Et moi, je m'attendais pas à trouver ça ici, quoi.
Vous êtes brasseur, Émile. Vous êtes brasseur et vous nous avez amené des bières ici dans la cour de la Fraternelle, avec les verres qui font ding ding. Et cette bière, elle s'appelle l'Épicéa. Bon, normal, on vit au milieu des sapins.
Oui.
Est-ce que c'est une bière de sapin ?
Alors oui, c'est une bière brassée avec de l'Épicéa, qui est ramassée par la ferme de Champondré, au passage. Donc, qui est, parce qu'en fait, on les a certifiés en bio et il fallait une certification cueilleur bio, chose qu'on n'a pas. Donc avant, on cueillait nous-mêmes et on a plus plaisir, voilà.
Et alors cette bière, elle a goût de résine ?
Oui, elle a un goût de forêt, de résine, un peu de terre même. Voilà, parce qu'en fait, il y a un temps de contact qui est de quelques minutes en fait entre l'épicéa et la bière à l'ébullition du mou.
Wow. Vous l'avez goûté, Christophe, la bière ?
Pas encore.
À la vôtre. À la Fraternelle.
Santé.
À la Fraternité.
À la Fraternité, oui.
À la Fraternité.
À la Fraternité.
Santé.
Elle n'est pas venue toute seule, cette bière. Elle est venue avec du poisson dans des petits hamburgers.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, on a, suite à la création de la brasserie, on a monté un petit restaurant avec un Français donc, qui est géologue aux États-Unis. Et donc, on a tous les deux vécu là-bas et on avait bien aimé le principe des barbecue smokers américains.
De quoi ?
Barbecue smoker, où en fait, on fait fumer des viandes et poissons de manière indirecte. Et la finalité de ces fumaisons, c'est qu'il y a une cuisson, mais qui est extrêmement lente. Donc voilà, on a des morceaux de viande qui vont fumer pendant 9 heures, 10 heures et qui vont être cuits à la fin et qui vont du coup être très tendres.
C'est des burgers au saumon fumé.
Au saumon fumé, ouais. Donc là, c'est du saumon qu'on a fumé avec on l'a fait mariner pendant 24 heures, après on met du sirop d'érable pour le laquer un petit peu et c'est fumé pendant 1h30.
Alors, ça a l'air délicieux.
Mélange érable, saumon, petits oignons, salade de la roquette.
Huile de noisette, soja,
voilà.
Un petit peu de tout, quoi.
Dans ce que vous nous avez préparé, Émile, on sent la montagne.
Oui, après, oui, c'est vrai qu'on fait des fumaisons à 1300 mètres d'altitude. Peut-être que ça nous inspire, je ne sais pas. Mais malgré nous, on va dire.
Il est où, votre restaurant, Émile ?
Alors, le restaurant, il est au Molune, dans une ancienne école. Et ancienne mairie qui était historiquement un bâtiment qui date de 1863, qui était l'ancienne mairie la plus haute de Franche-Comté, à 1265 mètres exactement.
Vous connaissez Alice ? Alice Perret ?
Non, je ne la connais pas personnellement, non.
Roger, vous avez une petite passion pour l'accordéon ?
Oui, j'aime beaucoup l'accordéon. J'ai dans ma famille des petits-neveux qui ont été même des bons accordéonistes, pratiquement presque professionnels. Un petit air d'accordéon, ça met tout de suite l'ambiance.
Vous connaissez Roger, Alice, ça n'a pas été votre professeur d'histoire?
Non, je ne suis pas originaire de Saint-Claude. Je suis originaire de Haute-Savoie. C'est pas très loin, mais il a fallu quelques années avant que je découvre la fraternelle. J'ai découvert en 2009.
Comment vous avez atterri ici? Pourquoi vous êtes venu ici?
C'est la faute à l'amour.
Ah, bah.
J'ai plusieurs amours ici, plusieurs histoires d'amour, une avec un homme et puis une avec un lieu. Voilà, moi j'ai rencontré mon compagnon ici, il était bénévole à la fraternelle. C'est un lieu qui m'est très cher aussi, comme Émile, rien que de savoir que ça existe déjà, c'est un sentiment assez puissant en fait.
Vous êtes chez vous ici ?
Ben, j'ai l'impression que la maison du peuple, elle essaie de faire sentir à tout le monde qu'il peut être chez lui ici.
Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va jouer ?
Eh ben, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Rien Faire. C'est super, il faut aller écouter ça maintenant.
Rien Faire, c'est un beau programme.
C'est très intéressant de rien faire, ça nous manque des fois. Ça peut être même un temps nécessaire pour pouvoir exister.
Rien faire quand c'est choisi, hein. Parce que quand c'est imposé, c'est dur.
Ouais, c'est sûr.
Alors on écoute cette chanson qui s'appelle Être vieux, c'est ça ?
Être vieux. Être vieux avec une barbe et un manteau très râpé comme un chien allongé sur lui-même dans ses propres bras. Être vieille sous le ciel en avril, quand la terre est molle et que le monde continue à renaître comme un arbre. Chemin en visage vieux et doux, patiné, les yeux clairs et chassieux, encombré de tout le reste, tout l'avant, le fini, le plus jamais. Pour toujours,
merci beaucoup, Alice Perret.
Avec plaisir,
c'est très beau.
Merci.
On a envie d'être vieux,
c'est ça,
à Saint-Claude.
L'optimisme, c'est important.
Allez, ouais, l'optimisme, Roger.
À la vie, à la fraternelle.
À la vie, à la fraternelle. Sans Claudienne, sans Claudien, merci à tous et à très bientôt sur France Inter ou ailleurs.
Cette émission a été réalisée par Benoît Thuot.
Cette émission a été préparée par Marion Philippe, assistée de Julien Martin.
Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter.
Et demain, vous retrouvez Antoine Lee à Aix-les-Bains, en Savoie. Merci à tous.